c'est bon, mais que c'est bon, tu te rends compte.
C'est pas une œuvre d'art.
Si, si, un site est une œuvre d'art.
CO2, mon amour.
Les architectes qui ont fait les beaux-arts, ils oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruiz Dalle de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui à la technique Christophe Michou, Stéphane Beaufils et David Haenot, et puis Camille Blanès est avec nous bien sûr, notre assistante, et Xavier Pessugia réalise l'émission. Qui commence toujours par une petite humeur. Et oui, le printemps ne saute pas encore à la corde de joie partout, mais il est quand même là, dans la plaine, les collines, les parcs et nos jardins. Donald Trump, lui, s'assoit sur le printemps comme sur l'écologie. Alors, il va très bien, merci, ses ministres aussi. Le réchauffement climatique d'origine humaine, donc, n'existe pas. La Terre n'est pas ronde, elle est plate. Les pesticides sont bons car Dieu, BASF, Bayer nous les ont donnés. Et quand le pipeline va, eh bien, tout va. Alors, on laisse faire le marché, les scientifiques les espèrent, et les experts, et la technoscience qui corrigera nos erreurs. Eh bien, non, car une bonne partie du peuple des gens bouge ne veut pas de poulet à l'eau de Javel, du vent empoisonné, de printemps silencieux sans oiseaux. Et il n'a pas renoncé non plus et s'affranchit du politique en manquant de courage un petit peu, c'est moins qu'on puisse dire, ça va être un de nos thèmes qui est toujours en décalage régulier avec ses aspirations. Bref, beaucoup de citoyens sont déjà prêts. Alors aujourd'hui, dans ce hall qui voit passer donc les marchands de voitures, le salon du body fitness, ça c'était la semaine dernière, vraiment, avec des femelles, des mâles qui ressemblent à des taureaux de compétition sous créatine, eh bien, il y a quelques jours, à notre place, dans ce hall, on célébrait donc la pie rouge des plaines, le porc noir gascon, et aujourd'hui, ce sont des auteurs et des livres. Est-ce mieux pour l'écologie ? Je pose la question. Est-ce mieux véritablement pour l'écologie ? Est-ce mieux pour les arbres, quand on sait qu'un livre sur deux n'a aucun intérêt et que deux sur trois, de toute façon, terminera au pilon ? Alors, lectrices et lecteurs, voyez tous ces arbres qui nous entourent, sur ces rayonnages un peu partout. Oui, le livre, bien sûr, est un objet culturel que nous aimons à France Inter et partout, un objet culturel merveilleux, mais aussi une quasi-promotion posthume, donc, pour l'arbre. Alors, bienvenue quand même aux hirondelles et à leurs belles plumes, et que le printemps nous fabrique plein de bonnes et de jolies feuilles. Nous sommes donc dans ce temple, nous en avons autour de la table de très bons auteurs. Isabelle Saporta avec nous, Fabrice Nicolino, Francis Allais, Frédéric Danhé. Mais d'abord, amis de France Inter, de CO2 Mon Amour, de la nature et de l'écologie, comme le printemps que nous saluons, bienvenue à tous. Et voilà. Alors oui, le roman, c'est vrai, est toujours la vedette du Salon du Livre de Paris, mais la Terre et l'écologie sont aussi un roman. Bon, je m'en sors un peu comme je peux. Donc, Isabelle Saporta, Fabrice Nicolino, Frédéric Danhé, Francis Allais et son cortège d'arbres aujourd'hui donc avec nous. Je tiens à préciser que tous mes invités, comme la nature, sont habillés par eux-mêmes. Alors, Frédéric oui. Danhé, donc, puisque vous êtes avec nous, donc chroniqueur depuis 7 ans sur cette émission, DESS d'environnement, scientifique, et puis
je suis ch'ti aussi, vous allez me le faire comme d'habitude.
Non, c'est bon, je m'arrête là. D'accord, donc, c'est parfait. Qu'est-ce que l'on peut dire globalement, ce que vous avez écrit quand même vous aussi pas mal de bouquins, comme nos amis ici présents, sur le livre globalement d'environnement, comment il se porte le livre d'environnement
Aïe, 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 le livre il se porte comme la couleur du micro, il est rouge, c'est en rouge. Les ventes de livres environnement sont pas très très fortes et baissent année après année. Pour des raisons multiples. Non, non, si vous voulez gagner de l'argent en faisant des livres, hein, cher Denis, cher confrère et cher public, ben il faut faire des livres sur le rangement, par exemple. Ça marche très très bien, savoir ranger sa maison, savoir manger sans quelque chose, sans gluten, sans ceci, sans cela, savoir décorer, le développement personnel et il faut parler de ses intestins. Ah. Les livres sur les intestins fonctionnent très bien. Alors les intestins sont très longs, donc le marché est assez porteur. Hein, on peut tronçonner en une multitude de livres. Mais voilà ce qui fonctionne. Non, les essais documents en général et les livres verts ne marchent pas très bien.
Pas très bien, d'accord. Mais pour les intestins, petite incise comme ça, on parle très souvent de flore intestinale et maintenant
c'est... Non. Flore intestinale, ça fait prairie, ça fait nature, ça fait écosystème. Non, on parle de microbiote. C'est plus technique, on n'y comprend rien, mais ça reste la flore intestinale.
Ouais. Bon, voilà. Donc ça, c'était le petit point sur le livre donc environnemental. Donc Fabrice Nicolino avec nous, avec cet ouvrage qui s'appelle Ce qui compte vraiment aux éditions, donc des liens, les liens qui libèrent. Aussi, bien sûr, journaliste à Charlie Hebdo. Et puis, vous allez voir, enfin, vous le savez, d'ailleurs, vous l'avez compris en écoutant Frédéric Danhé, Nos quatre intervenants ont un sacré caractère. Il vaut mieux en avoir quand on parle d'environnement. Fabrice Nicolino, c'est vrai que depuis 12 000 ans, on a joui d'une relative stabilité climatique qui a donné donc naissance à l'agriculture, à plein de civilisations que nous connaissons, pharaoniques, grecques, romaines, incas, j'en passe et des meilleurs. Et donc, c'est, une fois de plus, le climat fait l'histoire. Hein. On n'en a pas forcément conscience, mais le climat fait l'histoire. Pas que, mais quand même, il fait l'histoire. Le reste, après, a été connu. Depuis 150 ans, et surtout depuis une cinquantaine d'années, les espèces disparaissent à un rythme sans équivalent. Le sapiens, qui ne l'est pas encore, se dit « Allez hop, en solde, tout doit disparaître. On va garder uniquement ce qui est trans quelque chose ou bien 2.0. » La chimie de synthèse est libérée donc dans tous les milieux des millions de molécules. Alors, maintenant, une fois qu'on a ce constat, et on pourrait rajouter des tas de choses, comment avancer, on va dire, dans ce concours à la fois national et international de pensée magique et de coups de menton? Et c'est un peu ça aussi que vous nous dites dans ce livre, ce qui compte vraiment.
Comment avancer si... Bon, la question est redoutable. Il faut dire d'abord un tout petit mot, parce que le titre de mon livre, ce qui compte vraiment, renvoie très directement à la campagne présidentielle en cours, qui est d'un vide, à mes yeux, total, sidéral. Toute tendance politique confondue, je m'empresse de le dire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la campagne, encore une fois, toute tendance confondue, ne parle jamais que de la France. Et une campagne française est franchouillarde, pour tout dire, alors que les équilibres
essentiels... C'est quand même une présidentielle française aussi.
Oui, mais on peut pas d'un côté dire que la France doit jouer un rôle dans le monde et de l'autre côté s'arrêter à nos frontières. C'est un petit peu ridicule, d'autant plus que la crise climatique que vous venez d'évoquer et toutes les autres crises qui sont connectées à cette crise climatique nous placent vraiment devant des urgences totales. Et d'une certaine manière, tout le monde le dit. Je veux dire, il y a une sorte d'unanimité nationale pour dire que la planète est en danger. Et dans le même temps, on fait comme si, précisément, on avait 250 ans devant nous pour régler les problèmes qui se posent. Donc, il y a quelque chose d'absurde. Comment avancer? Bon, j'ai essayé d'indiquer 4-5 directions dans ce livre. Une qui concerne la France, qui reste mon pays, Dieu sait, mon pays. Et les autres, le monde, parce que le monde, évidemment, c'est quand même plus qu'essentiel pour notre avenir commun. Voilà, c'est des directions, c'est-à-dire si on trouve une force collective suffisante, on peut envisager d'aller dans cette direction-là. Si on reste dans le picrocolin, dans la France éternelle, je crains qu'on n'avance pas beaucoup. Voilà.
Alors quand même, vous avez un chapitre extrêmement important. Je parlais du salon de l'agriculture. Et si les paysans et les grenouilles revenaient? Bon, vous rappelez que 15 000 villages meurent quand même dans l'indifférence. Que pour Fernand Braudel, lorsqu'il a écrit l'identité de la France, pour lui, le grand déménagement, bien sûr que ça a été les différentes guerres qu'il a d'ailleurs subies, mais aussi le grand déménagement agricole. Bon, et là, on voit bien qu'on est au bout d'un système. Et d'ailleurs, Isabelle Saporta aussi le voit.
Oui, absolument. Et bon, donc cette partie qui concerne la France, pour moi, est essentielle. Je pense sincèrement, compte tenu des changements qui sont intervenus depuis 15 ou 20 ans, notamment dans le domaine alimentaire, les demandes alimentaires de millions et de millions de Français ont changé radicalement en l'espace de quelques années. C'est très spectaculaire. Compte tenu de cette base-là, je crois qu'on pourrait proposer ensemble, tous ensemble, un plan de sortie de l'agriculture industrielle, comme on parle d'un plan de sortie du nucléaire. Donc ça prendrait nécessairement du temps, mais un plan tel que je l'imagine, tel que je le décris, me paraît, disons, susceptible de créer un espoir collectif gigantesque dans ce pays. Il faut en effet sortir d'un système, vous l'avez dit, il est à bout de souffle. Et puis surtout, moi, je me place aussi du point de vue de la nature. On sait de manière certaine, c'est documenté de manière certaine. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des supputations personnelles. Hélas, on sait que la moitié des oiseaux en France, la moitié des effectifs d'oiseaux en France ont simplement disparu depuis 1960. On sait que la moitié des papillons ont disparu de nos territoires en 20 ou 30 ans. Donc c'est des événements de nature apocalyptique. Alors on peut continuer à parler dans le vide pendant des décennies. On est face à une tragédie, une vraie tragédie, hein. Et je crois qu'une sortie de ce système délirant qui finalement nuit à tout le monde, y compris aux paysans qui acceptent encore de jouer le jeu, eh bien sortir de ce système, ça serait susceptible de donner de l'espoir, une sorte de pêche collective à un pays qui est un peu exsangue, en tout cas qui paraît très très fatigué. il faut de l'espoir et une sortie de l'agriculture industrielle qui me paraît possible aujourd'hui, à mon avis, serait un événement de très grande ampleur. Alors là, très positif.
Ça recoupe absolument aussi ce que dit Isabelle Saporta dans son ouvrage, donc il s'appelle Du courage aux éditions Fayard, sous-titre En finir avec ces trahisons, donc qui nous tueront. On pourrait mettre un autre sous-titre, en gros, c'est à qui profite le crime. Alors en fait, depuis 15 ans, vous avez fait donc pas mal d'enquêtes sur le terrain, vous avez pas du tout, vous êtes aussi donc journaliste tout à fait indépendante, et vous constatez quand même 15 ans de reculade de nos dirigeants, alors de stigmatisation de Bruxelles, de travail de sable des grands argentiers quand même aussi qui sont derrière, et donc vous passez au crible les grandes causes pour lesquelles donc on n'a pas su forcément, face auxquelles on n'a pas su tenir bon.
Oui, mais moi, je suis partie exactement du même constat accablant que Fabrice Nicolino. C'est-à-dire que là, on a une campagne présidentielle qu'on pourrait se ressaisir des sujets qui comptent vraiment, comme il le dit très justement, et qu'on ne le fait pas. Donc, on a passé une campagne sur les costumes, le prix du costume de Fillon, sur maintenant la montre, demain sur je ne sais pas quoi encore, et qu'à côté de ça, tout ce qui compte vraiment, effectivement, on n'en parle pas. Et donc là, moi, j'ai repris finalement tout ce que j'avais pu suivre depuis 15 ans, et je me suis rendu compte que oui, on dit les Français ne croient plus en politique. Et pour cause. Je veux dire, à chaque fois, on est dans des promesses incantatoires et on recule. On recule sur tout. On recule sur le bio dans les cantines. On promet le bio dans les cantines à 20% en 2009 pour 2012. On est en 2017. On est à 3,2% de bio dans les cantines. Vous voyez? Je veux dire, bon, voilà, en 2009, Grenelle de l'environnement, on dit on va réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires. Ils ont augmenté de 25% entre 2009 et 2017. Donc il y a un moment, si vous voulez, il ne faut pas que se payer des mots, il faut agir, et on attend nos politiques qu'ils agissent, et pas qu'ils fassent le bal, la danse du ventre devant les grands argentiers et devant les grands lobbyistes, parce que, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais par exemple, ce à quoi on vient d'insister avec les Monsanto Papers, donc avec le glyphosate et le Roundup, c'est juste une honte. C'est-à-dire qu'on a, là, pour le coup, l'Europe, l'Agence chimique européenne qui nous explique là il y a quelques jours que tout va très bien, madame la marquise, pour cette molécule et cet herbicide qui est le plus épandu dans le monde, 800 000 tonnes, 8 000 tonnes rien qu'en France, en nous disant tout va très bien, sauf que de l'autre côté, effectivement, aux États-Unis, l'affaire explose et on apprend que depuis la fin des années 90, Monsanto savait au moins le caractère mutagène de cet herbicide, si ce n'est plus, et à essayer d'acheter des scientifiques pour faire taire ce scandale. Donc, aux États-Unis, l'affaire explose, et chez nous, on dit « Ah ben non, mais ça va, le glyphosate, ça va, le Roundup, c'est nickel. » Donc ça, c'est pas possible, vous voyez, parce que après on dit « Pourquoi les gens, entre guillemets, votent mal ?» Mais ils votent pas mal, ils en ont marre d'être pris pour des cons, c'est tout. Hein.
Est-ce que le fait que Bayer n'est pas... Est-ce que le fait que Bayer ayant racheté Monsanto, maintenant, ça va être encore plus dur, je dirais, d'un point de vue européen, puisqu'on a quand même une Allemagne qui est dominante aussi, alors Frédéric Dans les...
Oui, Bayer, c'est un industriel extrêmement important en Allemagne. L'Allemagne est extrêmement importante en Europe. Donc on voit pertinemment où sont les lignes de pression. C'est pas nouveau. Ce que révèlent effectivement les Monsanto Papers, c'est la vie de tous les jours que connaissent les gens qui sont censés légiférer, notamment en Europe, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des pressions énormes, et puis sur des documents qui sont extrêmement faciles à interpréter dans un sens ou dans un autre, parce que les éléments de preuve manquent selon les canons de la preuve d'aujourd'hui. Et on est sur des tests statistiques qui, si l'on change un paramètre, délivreront des niveaux de preuve complètement différents. Donc on va se battre encore pendant des années là-dessus. Effectivement, mieux vaudrait qu'on décide une bonne fois pour toutes si c'est cancérigène ou si ça ne l'est pas, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On va se balancer des infos scientifiques encore pendant des années devant des tribunaux, ça ne servira à rien. Autant décider tout de suite.
Quel est un peu l'avis, on va dire, du botaniste que vous êtes, Francis Allais, donc qui prenait, on va dire, du recul en grimpant aussi sur la canopée, vous avez fait découvrir le génie végétal. Voilà, vous avez toujours célébré le génie végétal, mais lorsque vous voyez donc ces destructions, on sait pourquoi, évidemment, globalement, pourquoi c'est fait, mais comment vous réagissez par rapport à cela?
Je suis un peu horrifié du rôle de mon pays. Parce qu'il y a trop de coupeurs de bois français. Voilà. Dans tous les pays tropicaux où je travaille, Afrique, Amérique, Asie, il y a une grosse proportion qui sont des Français. Et je vois pas pourquoi. Ça devrait pas être notre manière d'agir. Le résultat, c'est que les forêts tropicales qui m'intéressent tant, elles sont vraiment à bout de souffle. Forêts primaires, c'est pratiquement fini.
Alors ici, quand on est dans un salon du livre, c'est vrai qu'on est en France, dans un pays tempéré qui bénéficie quand même d'un climat donc stable. C'est vrai que c'est très différent comme perception, mais quel est le rôle justement de ces forêts donc primaires, rappelons-le. Alors, on dit, c'est un résumé, c'est pas scientifiquement exact, quand on dit que c'est un des poumons, on va dire, voilà. Non, mais c'est assez simple à comprendre, on va dire que ça envoie de l'oxygène et puis que ça capte du CO2, mais quel est ce rôle important?
Elles ont deux fonctions que nos forêts d'ici n'ont pas. D'abord, elles travaillent toute l'année, 12 mois sur 12. Et puis, elles sont un énorme réservoir de biodiversité, avec tous les groupes que nous avons, plus tous ceux que nous n'avons pas. La biodiversité, le sommet mondial, nous le savons maintenant, c'est les canopées des forêts équatoriales. Ce n'est pas les océans comme on l'a pensé un instant.
Fabrice Nicolino, ce que l'on va faire tranquillement, voilà, nous allons donc poursuivre ce voyage avec vous, avec nos invités, et donc on va s'offrir. Gilles Kaplan ? Bah oui, bien sûr, on aime bien Gilles Kaplan sur France Inter. Ouais.
Du sable, quand je n'abrite aucune seule flamme, quand je recherche trop le drame, tu te dis les charbons et les braises. Oh mon Dieu, comme tout ça me pèse. Tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes? Mon amour serait-il trop fort? Toi paisible qui se tient près du bord, moi qui marche tout en déséquilibre et recherche ta cage. Pour être libre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu me dis, il faut être raisonnable. Le temps recouvre nous, c'est du sable. Quand mes sentiments font une cascade, tu me dis il faut être plus aimable.
Alors, espèce de connard, faut faire attention, non?
Pardon, monsieur, je suis désolé.
Connard! C'est terrible ce qui vous est arrivé!
On a touché à ton rétroviseur.
CO2, mon amour.
Il y a des arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours.
Tu leur as dit merci aux vaches!
Vous êtes fou, monsieur.
Mais elle est belle, ta vie, mon gros.
Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible.
Denis Chessou.
Ah oui, ça on en a tué pour moins que ça. Ça voilà, donc ça c'est notre facétieux Xavier Pestulgia, réalisateur de son état, qui adore sortir des petits extraits comme ça de films et qui reste dans l'ambiance. Tenez, Fabrice Nicolino, donc avec nous, nous sommes évidemment au Salon du Livre, en direct avec vous, donc sur France Inter. Fabrice Nicolino, quand même, on a une nouvelle très intéressante qui vient de Nouvelle-Zélande.
Oui, c'est une nouvelle incroyable.
Ça vient de tomber, qu'est-ce que c'est ça, ça
un tribunal néo-zélandais vient d'accorder des droits comparables à ceux d'un humain à une rivière, un fleuve qui fait un peu plus de 300 km de long, qui est le troisième fleuve en longueur de la Nouvelle-Zélande. C'est un fleuve qui a été considéré comme sacré par les Maoris, qui sont la population d'origine de l'île. Et ce tribunal vient donc d'accorder les droits, ce qui est renversant. D'autant plus qu'un tribunal indien, deux jours plus tard, a décidé de faire de même avec le Gange. Le bassin du Gange, c'est 500 millions d'habitants, donc c'est une nouvelle encore plus spectaculaire d'une certaine manière. Et pour moi, c'est vraiment un signe d'encouragement et d'espoir. C'est un des sujets que je traite dans le livre, le sort des eaux douces, le sort des rivières et des fleuves. Et moi, je considère, avec d'autres d'ailleurs, qui font complètement inverser notre point de vue sur les fleuves et les rivières et cesser de penser en termes de dépollution avec tout ce que ça implique, hein, comme recours à l'industrie qu'on connaît bien. Non, je pense qu'il faut considérer les fleuves et les rivières, et je suis d'accord avec les Maoris, il faut les considérer comme des choses sacrées, des entités sacrées, et à terme, il faut penser à bien que ça paraisse impossible dans le cadre de notre économie, mais il faut penser à ne plus les polluer. L'objectif, l'enjeu fondamental écologique et humain, moral,
c'est de la prévention,
c'est de plus polluer. Et il se passe des choses dans ce domaine, et dans il se passe en ce moment dans le monde des questionnements nouveaux, très intéressants sur la place de l'homme et sur les limites de l'activité humaine sur cette terre.
Alors, puisqu'on parlait d'agriculture, quand même, il y a aussi des pistes. Les constats sont faits. Et malheureusement, alors on a besoin évidemment d'agriculteurs, mais aujourd'hui, beaucoup sont coincés donc par ce système. Pas tous, parce qu'Isabelle Saporta rencontre aussi, on en rencontre avec Frédéric Danhé sur le terrain, qui sont en train de bouger. Mais on voit bien que dans les signes forts, on va dire que la France ne veut plus vraiment d'engrais chimiques ni de pesticides dans son alimentation. On ne veut pas d'ajouts médicamenteux ni d'ajouts industriels. Bon, il y a donc une demande qui s'éloigne de plus en plus de l'offre. Et on voit beaucoup de signes intéressants quand même sur le terrain, Frédéric.
En agriculture, oui, bien sûr. On voit des agriculteurs qui, tous conventionnels, sont en train de changer pour des raisons économiques, parce que le modèle agricole traditionnel leur coûte trop cher, vont vers le bio asymptote. Voilà, c'est une asymptote, j'arriverai jamais à trouver l'adverbe. Voilà, ils vont vers le bio sans y aller tout à fait, et donc certains, beaucoup d'ailleurs, et c'est assez paradoxal, vous allez voir, certains labourent moins, labourent plus du tout, se contentent de griffer le sol, font une couverture permanente, et ces gens-là, en général, ont quand même besoin d'un peu de glyphosate, même s'ils n'ont pas envie d'utiliser du glyphosate, parce qu'ils ne trouvent pas d'autres solutions, parce qu'à partir du moment où on ne laboure plus, ou moins, on ne peut plus désherber mécaniquement, et pour l'instant, la société, le système agricole ne leur propose rien d'autre. Et ces gens qui veulent se désenchaîner du système qui les assujettit à des comptes d'exploitation dramatiques, ce système continue du coup.
Isabelle Saporta, vous aussi vous avez rencontré, on les rencontre dans votre ouvrage qui s'appelle donc Du courage, des agriculteurs qui changent.
Mais il y en a de plus en plus. Moi je pense que les agriculteurs aujourd'hui ils ont vraiment très très envie de changer, ils ont vraiment vraiment envie d'espoir. C'est vrai que tout à l'heure Fabrice Nicolino parlait d'espoir et de cette campagne présidentielle où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas de souffle. Et effectivement, ils n'attendent que ça. Aujourd'hui, vous avez un tiers des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros par mois. On est au bout du système productiviste. C'est-à-dire qu'avant, on nous disait, OK, bon, bah voilà, comme le dit très bien Fabrice, les cours d'eau sont pollués, on a quand même des pesticides dans 93% des points de surveillance de nos eaux de surface. OK, ils sont en train de mourir de maladies affreuses comme les maladies de Parkinson, les cancers. OK, la dépollution coûte de l'argent, mais quand même, l'agriculture productiviste est rentable. Donc aujourd'hui, ça n'est plus le cas. L'agriculture n'est plus rentable, elle rend nos paysans malades et les consommateurs veulent manger autre chose. Donc effectivement, oui, je pense qu'il est un petit peu temps de changer de logiciel et voir un petit peu les choses. Tout à l'heure, vous disiez, Fabrice, qu'il fallait arrêter de polluer et arrêter de penser en termes de dépollution. La bio dans les cantines, juste là où ça a été mis en place, vous mettez des maraîchages bio au-dessus des captages d'eau, vous n'avez plus de problème de dépollution de l'eau, hein, juste parce que vous n'avez plus de problème de pollution et vous réduisez la facture par 7. Donc il y a un moment, je veux dire,
ce que font d'ailleurs les grandes marques d'eau, on le sait très bien, que ce soit du côté des viandes, de Contrax, de Vital, ils font ça depuis des années. Donc, Munich le fait déjà depuis plus d'un siècle.
Voilà, et partout ça a été mis en place, annonce le saunier, ça marche. Donc il y a un moment, cette espèce de technique de Shadok, moins ça marche, plus on continue à pomper, je pense qu'il faut quand même qu'on arrête et qu'on pense un petit peu à autre chose. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé pour cette présidentielle, si vous voulez, qu'il y ait un peu un message d'espoir qui soit porté, un petit peu un message de soutien, plutôt que cette espèce de tristesse continue et où on a l'impression qu'on est dans des débats de boutiquiers, en fait. Je trouve que c'est pas à la hauteur des enjeux actuels.
Alors, donc, il faut une espèce de révolution, mais qui est possible, Fabrice Nicolino. D'ailleurs, vous mettez, on va pas détailler les 10 points là, sur ce thème-là, mais quand même, il y en a quelques-uns intéressants, quoi, qui...
Concernant l'agriculture, vous voulez dire? Mais écoutez, oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on peut imaginer une sorte de pacte national. Ça, c'est un mot, évidemment, qui a déjà beaucoup servi, malheureusement. Mais disons, je crois qu'on peut, parce que Isabelle vient de le dire, tant de choses ont changé. Et tant de paysans d'aujourd'hui ont intérêt à changer leurs pratiques. Donc, je crois sincèrement qu'on pourrait imaginer, oui, une sorte de pacte national, donnant. La population, massivement, par millions de personnes, refuse désormais des nourritures chimiquement transformées, qui est potentiellement dangereuse pour la santé de personnel et la santé des enfants.
Mais on subventionne aussi la pollution, je veux dire, aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais pensez, c'est complètement délirant. Et c'est vrai qu'il faudrait faire les comptes, si vous le voulez. Les comptes ne sont pas exactement faits. On ne sait pas combien coûte l'agriculture industrielle. Il faudrait inclure dans le coût... Quand on dit l'agriculture industrielle exporte, par exemple, X milliards d'euros chaque année, fort bien, mais combien elle coûte au budget national? Ça, on ne le sait pas. Les maladies qui sont induites par le modèle agricole industriel, le ramassage des algues vertes en Bretagne, c'est colossal. Les programmes d'aide publique, en effet, la dépollution de l'eau. Est-ce qu'il est normal qu'on n'impute pas à la pratique agricole industrielle la dépollution de nos cours d'eau, la dénitrification, hein, c'est ce mot barbare, mais qui pèse lourd en termes de milliers, de centaines de milliers, de millions et de milliards d'euros. Donc vous voyez bien que si on fait le compte général, moi j'ai essayé, hein, notamment dans ce livre, j'ai essayé de calculer. Il paraît à peu près évident que l'agriculture industrielle nous coûte de l'argent et en plus martyrise une grande quantité de paysans et rend malade un grand nombre de citoyens de ce pays. Donc c'est le moment de se lever.
Tout à fait.
C'est le moment.
Francis Allais.
Dans une période où on manque un petit peu de bonnes nouvelles, moi j'en ai une. Ça s'appelle agroforesterie. Et ça m'intéresse parce que les modèles sont tropicaux. Pour une fois, c'est pas nous qui allons dire aux gens du tiers-monde ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui viennent nous l'apprendre.
Alors, c'est-à-dire qu'on cherche à introduire en agriculture les qualités de la forêt.
C'est ça, exactement. On peut cultiver la forêt. C'est la civilisation romaine qui nous a mis dans la tête qu'il fallait déforester avant de cultiver. Mais moi, je visite des tas de pays où les gens ne détruisent pas du tout la forêt, ils la cultivent. Alors, il y a là-dedans des plantes qui servent à rien ou même qui sont dangereuses. On les retire et on les remplace par des plantes de même gabarit et qui sont utiles. C'est des choses qui courent sur des générations humaines. Et ça finit par te faire une forêt qui est entièrement productrice.
Le rôle de la forêt, il faut quand même le rappeler aussi. Alors, on ne va pas faire forcément l'anthropomorphisme, parce qu'elle se déboule très très bien, la forêt.
Enrichir les sols et améliorer le climat. Dans le fond, c'est juste ce que ne fait pas notre agriculture actuelle. Mmh. On a intérêt à se reconnecter avec les mécanismes forestiers. Le BRF, tu vois, le bois raméal fragmenté, ça c'est typiquement ce qui tombe dans une forêt, des bois morts, ça stimule la croissance des champignons du sol et c'est le début de la régénération du sol.
Et donc Frédéric Denré, comme vous connaissez bien ces sujets, vous avez écrit aussi l'Atlas du réchauffement climatique. Donc il y a bien sûr l'océan qui est un des grands régulateurs aussi donc du climat, ça on le sait, qui va absorber à peu près 25% on va dire du CO2. Et puis il y a la biomasse et en particulier les forêts.
Bah les forêts puis les prairies, hein, c'est le secteur qui monte dans les évaluations scientifiques. Et derrière les prairies il y a les vaches, il y a l'élevage, il y a l'agriculture et on en revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une agriculture de qualité extensive à l'herbe, c'est une agriculture qui nous préserve en partie des affres du changement climatique et puis c'est une agriculture qui entretient des écosystèmes qui derrière régulent la quantité, la qualité de l'eau, etc., etc. Tout est lié et on voit bien que le nœud gordien de cette affaire, bah, c'est la gestion des sols par les principaux concernés, les agriculteurs, si tant est qu'ils aient les moyens de gérer convenablement leurs écosystèmes et leurs sols. Et ça, c'est la responsabilité en partie du consommateur.
Fabrice Nicolino, moi je reviens sur votre livre aussi, ce qui compte vraiment, là, autre chapitre, restaurer l'antique beauté du monde. Non mais j'aime bien parce qu'en même temps, vous partez de faits vraiment étayés et vous avez cette part d'utopie qui nous est absolument nécessaire. Et comme le disait aussi Théodore Monod, l'utopie c'est jamais qu'un rêve qui n'a pas été réalisé. Donc voilà.
C'est joli, ça.
Oui, bon, c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire restaurer l'antique beauté du monde? Si vous voulez, c'est un peu long à expliquer, mais disons, on sait que les écosystèmes, c'est vraiment les systèmes naturels sur lesquels repose toute forme de vie, toute forme d'organisation, toute nos sociétés, ces systèmes naturels et les écosystèmes sont en train de s'effondrer. En écologie scientifique, on le sait parfaitement, c'est-à-dire un écosystème peut rester à peu près stable pendant longtemps, être attaqué de toutes parts, être en apparence encore solide et brusquement s'effondrer. Et en fait, on est en face de ce, on est face à ce problème majeur pour énormément d'écosystèmes de la planète. Je parle notamment, mais pas seulement, du Nil, ce fleuve d'Égypte, le long duquel vivent les 98% des 85 millions d'Égyptiens. Donc c'est une source de vie essentielle. Sans le Nil, il n'y a plus d'Égypte. Et ce fleuve, pour des tas de raisons que j'ai pas le temps de détailler, ce fleuve est en train de subir des assauts tels qu'il est en train de disparaître en tant que forme vivante susceptible de porter la vie de ces millions d'Égyptiens. Donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence majeure au monde, y compris en France, y compris, j'ose le dire, dans cette campagne présidentielle, il n'y a pas d'urgence plus grande que de restaurer le fonctionnement des écosystèmes autant qu'il est possible. Et donc j'envisage, bien sûr c'est l'utopie, mais j'envisage dans mon livre un plan planétaire de mise au travail des centaines de millions de gens, peut-être un demi-milliard, peut-être un milliard de gens qui sont soit sous-employés, soit carrément sans emploi dans le monde, notamment au Sud. Et j'imagine que ces gens, on pourrait les mettre au travail, non pas pour nous faire plaisir, à nous gens du Nord, évidemment, mais pour eux, pour leur vie, là où ils vivent, pour leur permettre de restaurer la santé des écosystèmes dont ils dépendent, et que ça devient très urgent, resterait à trouver un moyen de financer ce formidable travail qui est vraiment, c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule, bien sûr. Comment le financer? Eh bien, écoutez, au nord, on déborde d'argent. On le sait tous, la spéculation financière fait circuler des milliers de milliards d'euros chaque année dans le monde. Si on arrivait à en prendre une fraction, de quelle manière? J'ai des idées. Si on arrivait à en prendre une fraction, eh bien, je pense qu'on pourrait mettre cet argent au service de la restauration écologique des écosystèmes de la planète. Bien sûr, ça paraît difficile, mais en même temps, sans cela, je ne vois strictement plus aucun espoir.
Alors, de la planète au quotidien aussi, on va revenir chez nous. Vous connaissez le merveilleux département de l'Yonne. C'est vrai que c'est un département qui est très sympa. Vous avez à la fois le Morvan, vous avez Avallon, puis vous avez du vin, ouais. Puis vous avez Chablis.
Ouais.
Et alors, mettons un peu de bitume dans mon Chablis, racontez-nous ça.
Bah, non, mais c'est la France dans toute sa splendeur, parce que voilà, on a quand même une chose qu'on fait particulièrement bien, c'est notre vin. Oui. On est très content, d'ailleurs.
On fait plein de trucs.
Hein, mais non, mais ça, bon, voilà, on en est très fiers parce que ça s'exporte pas mal. Hein, donc, pour reprendre les termes de Fabrice Nicolino, donc on est content de ça. Et ben là, il y a effectivement un technocrate qui a eu cette idée géniale, c'est d'accorder aux autoroutiers de faire une usine à bitume en plein cœur de Chablis, avec une cheminée de 13 mètres qui aurait craché des rejets toxiques à longueur de journée. Et donc, ils ont aussi trouvé après un fonctionnaire de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité qui est censé préserver nos terroirs pour dire...
Oui, c'est bien, c'est pas mal.
Mais c'est bien, mais le bitume dans le Chablis, ça va aromatiser, ça va être sympa. Donc, si vous voulez, je veux dire, donc, heureusement, effectivement, les Chablisiens se sont levés, comme quoi, vous avez raison Fabrice, à chaque fois qu'on se lève, qu'on fait face et qu'on a du courage, ça fonctionne, donc il ne faut pas baisser les bras. Et ils ont réussi à faire reculer ce projet. Mais je dois dire que comment faire germer des projets plus idiots dans la tête de certains dirigeants, c'est des choses qui me fascinent à chaque fois que je tombe dessus. Donc voilà. Mais c'est vrai que je comprends pas, parce que on est aujourd'hui en train de créer des espèces de diagonales du vide. Vous savez, on est toujours en train de se demander comment ça se fait que les villages se dépeuplent, comment ça se fait que, ben ça se fait que voilà, on fait du bitume, on fait disparaître sous le bitume et sous le béton un département tous les 6 à 10 ans, on fait des fermes-usines où il y a un paysan pour des milliers de bêtes, et après on s'étonne que tout le maillage social s'effondre avec. Ben non, c'est pas étonnant, le maillage social s'effondre avec, et je pense qu'effectivement il est urgent de repenser un petit peu notre rapport les uns aux autres. Excusez-moi d'être un peu cucu la praline, mais effectivement, tout n'est pas que profit. Il faut aussi penser un petit peu à ce maillage territorial, à ce maillage social, et qu'on a besoin les uns des autres, en fait.
Vous êtes une fille dangereuse, hein. Vous tous êtes dangereux.
Je suis une dangereuse. Ah.
Voilà, on va se faire un peu de musique avec peut-être une petite surprise.
Je serai les the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl.
Bonne nouvelle, d'après l'Office mondial de la santé, on meurt de moins en moins de crises cardiaques et nous nous tournons vers le docteur Radio Plus.
Exact. Mais cette statistique étant établie mondialement, il faut dire que les gens meurent moins de crises cardiaques parce qu'ils meurent avant soit de faim, soit à cause de la pollution.
Est-ce que vous constatez, vous, déjà les effets de la pollution sur les patients qui viennent chez vous?
Oui. CO2, mon amour.
Vous savez, moi je suis médecin à la radio. J'écris dans les magazines. Alors, il y a combien ? 15 ans que j'ai pas vu de malade.
Avec Denis Chessou.
Et oui, avec Isabelle Saporta, avec Fabrice Nicolino, avec Francis Allais, Frédéric Dan. Et j'ai entre les mains aussi, parce que le livre de jeunesse est quand même représenté ici, même si c'est pas Montreuil, un ouvrage aux éditions Agathe Henning et qui s'appelle Association de bienfaiteurs. Alors c'est très bien parce que ça permet aux gamins d'apprendre ce qu'est la permaculture et un autre aussi qui s'appelle Faut pas mousser, qui apprennent ce que sont les écosystèmes. Voilà, j'ai eu le temps de les parcourir, pas de les lire, je vais être tout à fait honnête, mais effectivement c'est pas mal fait du tout. Cher Francis Allais, donc botaniste qui nous a permis de découvrir le radeau des cimes. Vous êtes avec cet ouvrage qui s'appelle Atlas botanique poétique aux éditions donc Artaud. Et alors moi j'ai pensé à vous parce que je suis passé devant une boîte aux lettres l'autre jour où il y avait marqué pas de pub, foutez la paix aux arbres, comité de défense des arbres. Je trouvais ça génial. Vous voyez, donc c'était ça. Comment vous regardez les arbres? On avait fait une conférence ensemble, c'était sur les marais de Lavour dans le département de l'Ain. Donc on était au pied du Grand Colombier dans un marais, dans une réserve extraordinaire, et je vous voyais avec votre carnet de croquis toujours avec en train de dessiner.
Ben moi j'aime bien dessiner, je vois pas d'autre manière de restituer ce que je vois. Ma mémoire suffit pas, parce que quand je suis en forêt équatoriale, c'est des milliers de plantes chaque jour. Ma seule solution, c'est de les dessiner.
Et alors, derrière...
Mais d'ailleurs, tous les botanistes ont dessiné. Ceux qui veulent pas, sûr, ou ceux qui peuvent pas, ils ont des dessinateurs professionnels.
Et alors, les aider. On a parlé évidemment des forêts primaires, mais donnez-nous quand même là maintenant des exemples, parce que c'est un atlas de botanique poétique. Si on parle de l'arbre à caoutchouc que l'on connaît les uns les autres, donc qui nous fournit du latex, est-ce que l'on peut dire sur cet arbre-là?
Moi, c'est un arbre passionnant. Ouais. C'est toute l'histoire du monde qui est dans cette... voilà, en relation avec le caoutchouc. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est un arbre passionnant et que je trouve extraordinairement poétique pour ceux qui apprécient l'Amazonie.
Mais il y a quand même une chose, c'est qu'on ne sait pas pourquoi lui a besoin de latex. Nous, on peut le savoir. Bon,
exact, mais... C'est exact, mais d'une façon générale, on utilise les plantes pour des propriétés ou des molécules ou des choses comme ça. On ne se préoccupe absolument pas de savoir pourquoi la plante a mis en place ses propriétés ou ses molécules. Il y a un manque d'intérêt profond. C'est juste pour nous. Voilà.
Il y a des arbres qui marchent aussi, et puis des arbres qui ont des plantes qui ont une seule feuille.
Attention, on commence à rentrer dans les choses extraordinaires de la botanique, ah on n'est oui. pas sorti.
Non, non, mais si vous devez nous le faire très court, ça c'est... voilà, donc...
Effectivement, le palétuvier, pas tous, hein, mais une partie des palétuviers, ils avancent de 4 ou 5 mètres par an, et ils s'arrêtent, ça a l'air idiot, mais ils arrêtent quand ils n'ont plus pied, parce qu'ils marchent vers la mer.
Ouais.
Donc il y a un moment, c'est trop profond.
L'arbre fontaine, ça nous emmène quand même
ouais,
sur
ouais,
l'île,
très, très
dans les Canaries, sur l'île montagneuse de El Hierro.
El Hierro, ouais, ouais, c'est une petite île où il pleut presque jamais.
Ouais.
Et les Guanches qui habitaient là au départ, ils avaient remarqué que sous le Garoé, il pleut en permanence. Il y a des gravures du XVIe qui montrent ça. Malheureusement, le vieux Garoé, il a été abattu par un orage. Mais je suis très content d'avoir vu récemment que l'administration des îles replante des Garoés.
Ouais.
Donc l'arbre fontaine, c'est pas fini. On peut se doucher dessous.
C'est, voilà. Il y a aussi donc les. Bon, on sait que les plantes donc sont sans cerveau, qu'elles sont immobiles, donc elles envoient des signaux à l'animal. Et alors vous êtes toujours en admiration quand même devant ce truc incroyable qu'est la pollinisation.
Ben, la pollinisation, ça m'amuse parce que qu'est-ce qu'il vient faire l'animal ? Il vient chercher du nectar. On me fera pas croire que son souci c'est de polliniser la plante.
Ah non, c'est de. C'est de manger.
Manger.
Ah bon.
Après, vient le moment des fruits. Le fruit s'ouvre avec des couleurs magnifiques. Qu'est-ce qu'il vient faire l'animal ? Il vient manger. On ne me fera pas croire que son souci, c'est de disperser les graines de la plante. Comment ça s'appelle de faire faire quelque chose à quelqu'un sans qu'il le sache ? Ça s'appelle de la manipulation. Alors, je trouve ça intéressant sur le plan philosophique de réaliser oui. qu'un être qui n'a pas de cerveau manipule un être qui en a un.
C'est ça fonctionne bien. Tandis qu'entre êtres humains, ça se fait de façon... c'est très sciemment, vous voyez, que ça s'opère. Isabelle Saporta, on peut faire un lien d'ailleurs avec votre ouvrage Du Courage en ce qui concerne les abeilles, parce que
oui,
c'est des choses intéressantes. Et...
Bon, on a été lamentables là-dessus aussi, il faut quand même dire les choses, quoi, sur les fameuses insecticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. On a eu... Ben, là-dessus, j'avoue que notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui était soi-disant le chantre de l'agroécologie, a été particulièrement lamentable, montant en créneau pour les défendre quelques mois encore, ces insecticides tueurs d'abeilles. Moi, je trouve que... Voilà, là, je pense qu'on est au bout du système avec ça, encore une fois, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des molécules dont on ne sait pas non plus... vous savez qu'on se pose que depuis cette année les effets de ces molécules sur notre santé à nous, les hommes. Et voilà, on s'est dit, ah, bah tiens, ça fait 25 ans qu'on les utilise, ces néonicotinoïdes. On se doute que c'est pas bon pour les abeilles. Mais on sait même pas comment c'est pour les humains non plus. Hein. On va le savoir, là, dans les mois qui viennent. Il y en a 40% des insecticides sont aujourd'hui des néonicotinoïdes. Donc, voilà. Et quand on discute avec des gens du CNRS, comme Vincent Bretagnol, qui est un chercheur incroyable, on se rend compte qu'on n'y connaît rien. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des traces de néonicotinoïdes dans un colza qui avait été épandu, qui avait été semé, pardon, cette année. Et il s'est retrouvé avec une présence de néonicotinoïdes qui avait été sur du blé des années auparavant. Et qu'on trouvait en quantité plus importante dans le nectar. Donc, si vous voulez, on est dans un truc de fou. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais on continue à en épandre partout et on donne des dérogations pour en épandre encore plus longtemps.
Alors, juste quand même, effectivement, dire que Stéphane Le Foll a aussi mis en avant donc, davantage l'agroécologie et l'agroforesterie, avec les limites, hein, avec les limites
d'usage.
Denis
Chessou, je veux bien que vous le défendiez. Vous
savez non, je ne vais pas, simplement, j'essaie de regarder.
Les GI2E, là, les groupements d'intérêt écologique et... économique et écologique, dont il nous a rebattu les oreilles pendant 5 ans. Vous savez combien il y en a là ? 400. Vous savez combien il y a d'exploitations en France ? 400 000. Ouais. Donc moi je veux bien Stéphane Le Foll, mais pour le moment c'est quand même pas terrible. Hein.
Bien, alors donc Fabrice Nicolino, donc ce qui change, ce qui compte vraiment aussi. Qu'est-ce que vous sentez quand même aujourd'hui ? Parce qu'on a, on va s'accrocher un peu à tous les signaux faibles que l'on voit. Vous en parlez d'ailleurs aussi dans votre ouvrage. Donc vous appelez à cette révolution, beaucoup de personne d'ailleurs s'intéresse à la révolution des esprits. Ça a été c'était le cas de Pierre Rabhi, pardon, et d'autres. Oui, il y a de la foule.
Il y a de l'ambiance.
Il y a de... Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a de l'ambiance.
Mais ils sont pas chez nous.
Non, non, mais c'est pas grave. C'est... tout le monde s'exprime, c'est très bien. Forest Nicolino, comment vous voyez donc tout ceci non pas évoluer, parce qu'on n'a absolument pas la fin du film, et puis on serait pas là si on n'y croyait pas un minimum. Mais voilà, il y a quand même des comportements qui bougent aussi en ce moment.
Oui, bon, c'est un grand classique de l'aventure humaine. Enfin, il y a des changements, en effet, qui sont positifs parfois. C'est vrai. Mais le rythme de la destruction, le rythme, de, si vous voulez, on est face à un processus global planétaire de destruction du monde, de destruction des équilibres du monde. Donc la question qui se pose, elle est simple. Est-ce que les réactions des humains qui existent sont assez rapides pour faire émerger des formes nouvelles, des formes politiques, disons-le franchement. C'est ça l'enjeu. Le problème, c'est que le mouvement des idées, si vous voulez, est plus lent. Ça, c'est vraiment un classique. Il est plus lent que le rythme biologique des humains. Un humain vit ce qu'il vit, 80 ans ou 85 ans, et le mouvement des idées a besoin de davantage de temps. Je fais souvent un parallèle avec la révolution française de 1789. Pendant tout le 18e siècle, et même avant, mais pendant tout le 18e siècle français, des gens se sont appliqués à démonter l'imaginaire de la royauté, de la monarchie absolue, et sans ce travail de fourmi qui s'est étendu sur des dizaines d'années, un siècle et même davantage, je pense que la révolution démocratique de 1789 n'aurait pas pu voir le jour. Et en fait, moi je me sens exactement comme ça. Nos forces respectives sont faibles. Nous sommes des fourmis, nous travaillons à l'émergence de consciences nouvelles, de formes politiques mieux adaptées aux défis qu'on connaît. Est-ce que ça sera assez rapide? Je le souhaite de toutes mes forces, et à l'échelle qu'est la mienne, tout à fait minuscule, je fais ce qu'il faut.
Francis Salé, le botaniste que vous êtes, donc voit des échelles de temps complètement différentes, parce que les arbres pour vous, ce sont les maîtres du temps.
C'est facile de couper une forêt, mais si on veut attendre qu'elle repousse, dans les tropiques c'est 7 siècles, et ici c'est 10 siècles, 1000 ans, dans la forêt européenne. Mm-hmm. J'en profite pour signaler que notre dernière forêt primaire d'Europe, Białowieża en Pologne, est en train d'être exploitée. Le gouvernement polonais n'en a rien à foutre de l'écologie.
Bon, Frédéric Dant, dites-moi là, puisque...
Oui, Denis Chessou.
Oui, je vous en prie. Bon, on va parler quand même d'un animal tout à fait sympathique. Vous aimez les araignées? Vous aimez les araignées? Tout le monde aime les araignées ici? Oui, c'est ce que je vois, d'accord.
Non,
c'est pas... On va faire un sondage sur l'araignée, là, c'est pas terrible, là, dans le public. On va se mettre 50-50. Bon, en tout cas, il y a ceux que ça ne dérange pas.
Utile.
Mais alors, bien sûr que c'est très utile.
Voilà.
Et qu'est-ce que l'on a appris, Frédéric?
On a appris quelque chose de terrible. Ils sont pires que nous, les araignées. C'est 46 500 espèces, plus ou moins 200. 25 millions de tonnes, ça représente sur la planète. On s'est rendu compte qu'elle bouffait deux fois plus de protéines animales que nous. Vous vous rendez compte, 400 à 800 millions de tonnes contre 400 millions de tonnes juste pour nous. C'est un scandale. Elles vivent chez vous, Francis. Elles vivent en forêt, elles vivent en prairie. Voilà, c'est...
Ah oui, quand même.
Mais oui, 400 à 800 millions de tonnes par an. Et autrement dit, ce sont des régulateurs, ce sont des... Enfin voilà, elles sont totalement indispensables à notre écosystème. Et en particulier chez nous, dans nos maisons, mesdames, messieurs. Ne les ôtez pas de vos maisons, elles vous débarrassent de beaucoup d'insectes qui autrement vous seriez tenté d'éradiquer avec des bombes insecticides pleines de produits tous naturels, aussi naturels les uns que les autres, qui sont tous plus toxiques les uns que les autres.
Bien.
Gardez vos araignées.
Et donc ce que mangent les araignées n'a pas besoin de passer par un abattoir, dont parle très bien aussi donc Isabelle Saporta dans son ouvrage. Alors là aussi, bon, d'abord L214 avait vraiment fait son
travail. Ils ont fait un travail de lanceur d'alerte très important.
Absolument.
Bien sûr.
Et alors qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Parce qu'on peut avoir des bêtes qui sont très bien élevées, qui peuvent être bio, tout ce que vous voulez, etc. Et tout. Et au final, alors je ne dis pas que c'est une réalité partout, hein, loin de là, mais quand même, parfois au final, après,
vous savez,
on ne sait plus comment ça se passe.
Moi, je trouve qu'il en est des abattoirs comme il en est de beaucoup de choses en France. C'est-à-dire qu'on a décidé, comme pour tout ce qui n'était pas rentable immédiatement, de s'en débarrasser. Donc en France, on s'est débarrassé de nos abattoirs qu'on a laissé à deux grands groupes industriels qui gèrent le monde des abattoirs en France aujourd'hui et qui le gèrent à leur manière. Ça, c'était une erreur cataclysmique de faire ça. Hein. Oui, on a deux grands groupes, il y a Bigard, il y a La Coperle, il y a Socopa. C'est vraiment c'est ces grands groupes-là aujourd'hui qui gèrent nos abattoirs. Et on a les petits abattoirs de proximité qu'on a laissé tomber en désuétude et dont on s'est pas occupé, où on a mis des gens qui travaillaient dedans, qu'on a laissé dans une souffrance au travail démente. Alors moi, ça n'excuse pas tout, cette souffrance au travail. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'il fallait traiter autrement cette question des abattoirs. Vous avez des pays qui le traitent autrement. Vous avez la Suède qui fait effectivement, par exemple, des abattoirs qui sont des grands camions, hein, des abattoirs qui ambulants. Donc, moi, je pense qu'il va falloir repenser complètement cette question, effectivement, des abattoirs. Pour le moment, Stéphane Le Foll, encore lui, s'y est opposé. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas faire de l'ombre à ces deux grands groupes industriels. Mais effectivement, il va falloir le repenser autrement parce qu'aujourd'hui, on fait comme si les éleveurs étaient heureux de voir la souffrance dans laquelle sont les bêtes qu'ils amènent à l'abattoir. C'est faux. Moi, j'en côtoie quand même suffisamment qui étaient en larmes devant les images de L214 pour vous dire que c'est pas des gens, ils élèvent pas les bêtes comme ils les élèvent pour les voir se faire maltraiter comme elles sont maltraitées aujourd'hui. Donc moi j'aimerais bien, et j'en profite d'être chez vous, Denis Chessou, parce que je sais qu'il y a certainement beaucoup de véganes qui vous écoutent, pour dire que j'ai vu sur les pages Facebook.
Disons au moins des végétariens, il y en a voir. Ouais.
J'ai eu sur les pages Facebook des appels au meurtre de paysans, des appels à les pendre par les pieds, à les égorger comme leurs bêtes. C'est bien la défense des animaux, mais pas contre les hommes.
Voilà. Non, mais c'est fondamental de rappeler ça aussi. S'engager pour un monde meilleur, Frédéric Danhué, vous aviez écrit cet ouvrage donc aux éditions Flammarion, 10 propositions à votre portée qui ont été reprises d'ailleurs par France Nature Environnement. Donc là aussi, ouvrons une porte, voyons ce qui se passe. Nous sommes dans un maelstrom, on le sait bien, on est sur une fin de civilisation merveilleusement décadente, et en même temps il y a plein de jeunes pousses. C'est le printemps, donc ça bouge là aussi.
Bah, ça bouge. Alors, il est sorti l'an dernier, ce livre que j'ai écrit avec France Nature Environnement. Oui, il y a plein de jeunes pousses, mais dans tous les domaines. Moi, je vois, avec la campagne présidentielle, les discours qui ont été tenus par les politiques sur le transport et la logistique, oui, par exemple. Voilà. C'est toujours les mêmes incantations, c'est toujours la même... Voilà, on va faire des gros machins, plein de BTP, plein d'argent, etc. On ressort les mêmes projets depuis 30 ans qui n'ont jamais été financés. Et puis, pourtant, il y a des chefs d'entreprise, et puis il y a des filières qui ne... c'est ce qu'on montre dans ce livre, c'est ce que je montre dans ce livre, qui s'auto-organisent elles-mêmes sans attendre les sous de l'État, qui, par exemple, sur la Seine, font que aujourd'hui, vous avez les papiers usagés de l'ensemble de l'Île-de-France qui repartent à Rouen en barge. À l'inverse, ce sont des frigos qui vont être désossés à Veolia qui repartent sur d'autres barges. Voilà, on a un mix de filières industrielles qui sont mises en place ensemble sans aucune aide du gouvernement parce qu'il ne faut plus rien en attendre. Résultat, vous avez 1000 camions, 1000 semi-remorques en moins sur les routes. Puis vous avez une filière qui gagne de l'argent, qui a créé de l'emploi. Et personne n'en a entendu parler. Voilà, la politique, elle est là. Elle est sur du concret, sur du très concret, sur de l'auto-organisationnel et pas sur des incantations, sur on va percer un tunnel, on va claquer 4 milliards sur un port. Non, ça sert à rien. Et pourtant, c'est le discours qu'on entend encore. Manifestement, on a perdu le sens du terrain chez certains candidats.
Bien, alors juste pour terminer, on a quelques instants encore. Peut-être, je ne sais pas, des initiatives, des choses qui vous ont semblé intéressantes, Isabelle Saporta. On va pas rentrer sur l'étiquetage nutritionnel parce que là, c'est une cata.
Non, c'est pas une cata, ils ont gagné là quand même. Moi je pense que, enfin, le professeur Herberg a gagné. Il va juste falloir être vigilant parce que les industriels n'attendent qu'une chose, c'est effectivement ne pas suivre les recommandations.
Alors, bon, j'ai mal exprimé parce qu'effectivement c'était au départ, c'est toute l'histoire qu'on va pas raconter, mais où en est-on donc maintenant aujourd'hui?
Alors, le professeur Herberg, le patron du programme national nutrition santé, a gagné. Effectivement, aujourd'hui, vous allez avoir un étiquetage avec vert c'est bien, rouge c'est pas bien.
Sur les produits industriels. Voilà,
l'avantage, si vous voulez, c'est que j'entends beaucoup de gens me dire, mais c'est un peu infantilisant, etc. Oui et non. Parce que si vous voulez, si vous êtes dans un rayon de supermarché, vous avez toutes les céréales du petit déjeuner, bah, vous pouvez aller vers les vertes plutôt que celles qui sont rouges. Donc, je pense que c'est quand même pas mal pour ceux qui n'ont pas renoncé, effectivement, à toute la nourriture transformée. Alors, effectivement, les industriels sont déjà en train d'essayer de contourner ça en lançant un autre étiquetage où en fait une barre chocolatée bien dégueulasse ce sera vert, donc il va falloir être très vigilant, boycotter ceux qui ne prennent pas le système Herberg, et voilà, c'est tout.
Bien, bah écoutez, un grand merci à vous tous. Un tout petit mot, je sais pas, Fabrice Nicolino, tout va bien,
il veut lutter contre la laideur.
Non, c'est simplement que oui. Oui,
on va lutter tous les deux.
On veut lutter ensemble. On se parlait hors micro de la laideur qui envahit le monde entier à une vitesse fulgurante. Et oui, disons, lançons un appel à la beauté du monde, parce que la beauté du monde existe quand même.
Mais votre âme est belle à tous. Donc c'est Fabrice Nicolino, ce qui compte vraiment, s'engager pour un monde meilleur, Frédéric Danhué. Du courage, Isabelle Saporta, et Atlas de botanique poétique chez Artaud. Avec vous, Francis Salé. Un grand merci à tous. Merci à Camille Blanès, Xavier Bestugia et au public qui est là et qui va rester parce que la librairie francophone va suivre avec Emmanuel Pierrade.